Parce que Dieu ne serait pas un. On veut te rendre grâce encore une fois pour ce deuxième temps que tu nous donnes aujourd'hui pour venir à ta Sainte Présence, pour venir étudier ta Sainte Parole, pour t'adorer, pour te remercier. On veut te rendre grâce d'abord pour ta grandeur infinie. On veut t'adorer pour le fait que tu es un Dieu parfait. Tu es un Dieu d'une grande bonté, un Dieu d'amour. Le Dieu qui, de toute éternité, nous a fait grâce, nous a donné la vie. Grâce à l'œuvre de Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a accompli cette œuvre grandiose de rédemption à la croix. Je veux te rendre grâce aussi pour le Saint-Esprit qui nous éclaire et nous guide dans notre chemin, dans notre voyage. On te prie d'être avec nous ce soir. On te demande de pardonner nos péchés. Nous connaissons notre faiblesse et nous savons, Seigneur, que notre vieille nature est bien prompte à sombrer dans le péché sous bien les formes, soit dans nos pensées qui vagabondent facilement, nos paroles aussi qui peuvent parfois blesser, qui peuvent parfois faire du mal, nos actions également. Et nous savons aussi que nous pouvons pécher par omission, c'est-à-dire en n'accomplissant pas ce qui doit être accompli par ta révélation. Seigneur, tu connais l'état de nos âmes, de chacun de nous. On prie non seulement pour chacun de nous ici ce soir, mais pour tous ceux qui sont assemblés en ton nom ce soir, un peu partout, et entendent ta parole. Nous te demandons de permettre que le cœur de tous et de chacun soit ouvert, soit réceptif, et que le message qui leur soit enseigné soit reçu dans leur cœur comme étant quelque chose qui vient directement de ta main. Encore une fois, nous prions pour les missionnaires aussi à travers le monde. Nous prions pour que tu appelles de nouveaux ouvriers pour les envoyer dans ta moisson, c'est temps de la fin. Nous prions aussi pour tous les frères qui, dans quelque église qu'ils se trouvent, peuvent être dans l'église, qui sont dans la désobéissance ou qui se dirigent dans l'apostasie. Nous te prions, Seigneur, de les éclairer, les guider et de permettre qu'ils puissent avoir le courage et la force d'en sortir. Nous voulons te rendre grâce encore une fois pour tes bénédictions nombreuses dans chacune de nos vies. Et nous te prions ce soir d'être avec nous et de nous éclairer, de nous guider, de faire en sorte que le message qu'on va étudier sur ta souveraineté soit intégré, qu'on comprenne encore mieux qui tu es et l'étendue de ton règne, Seigneur. Nous te demandons toutes ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
On va faire une brève révision de ce qu'on a vu la semaine dernière, de façon à ce qu'on se replace dans le contexte des trois messages qu'on se passe sur la souveraineté de Dieu. On va commencer par redonner la définition, qui va nous replacer un petit peu dans le contexte. C'était donc le fait que Dieu a de toute éternité décidé, choisi et déterminé le cours de tous les actes et événements, sans exception, de tout l'univers pour toute l'éternité à venir. Alors, c'est très, très large comme un gros sac. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et le fait de savoir que c'est lui qui l'a décidé, choisi, déterminé, c'est quelque chose qui est grandiose, qui est quelque chose qui est aussi très rassurant pour les enfants de Dieu, de savoir que Dieu est puissant de cette manière-là. On avait vu aussi la semaine dernière pourquoi le Seigneur a le droit de régner. On avait répondu de deux manières. Premièrement, parce qu'il est le créateur de toutes choses, et en étant le créateur, il a le droit de disposer de sa création et de sa créature à sa guise. Et la deuxième chose, c'est que toute chose lui appartient. Alors, c'est sûr, si c'est lui qui l'a créé, ça lui appartient et il peut en disposer à sa discrétion. On avait vu aussi quelle était la nature de son pouvoir. Son pouvoir était absolu. Il pouvait exercer simultanément les trois pouvoirs, soit législatif, exécutif et judiciaire. On avait aussi regardé le fait qu'il ne rendait de compte à personne et que face à l'exécution de sa volonté, aucune forme d'opposition n'est possible. On avait vu aussi, grosso modo, rapidement, quelle était l'étendue de son règne. On avait vu qu'il régnait sur les anges à la fois bons et mauvais, qu'il régnait sur toute la création, qu'il régnait sur les hommes, qu'il régnait sur l'attribution du salut, puis qu'il régnait aussi sur ses saints. Alors là, cette semaine, ce qu'on va regarder, on avait vu la première partie, on va regarder cette semaine surtout la souveraineté de Dieu sur les hommes, de deux manières. Il exerce sa volonté sur les hommes collectivement, donc sur l'ensemble des hommes de la planète, et il exerce aussi sa volonté de façon individuelle. Alors, chacun de nous, Dieu a un plan pour chacun de nos vies, et comme il y en a un pour la vie de toute la collectivité humaine, comme il y en a pour chacune des nations. Alors, on va commencer par aller regarder Jérémie 10, Jérémie 10, verset 23. Verset 10. Éternel, je connais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. Alors, c'est un verset clé qui vient dire que c'est l'Éternel, la manière de notre voie ou notre chemin. Ça ne dépend pas de nous, c'est ce que ça dit. Je connais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. L'homme, lui, il a la conviction que c'est lui qui mène sa vie. Alors que tous les événements de sa vie ont été déjà prédéterminés par Dieu, ça n'enlève pas. Alors, d'après, il ne faut pas sombrer dans des doctrines quand on étudie la doctrine de la souveraineté de Dieu. C'est de dire que parce que Dieu a déterminé les choses, qu'on n'a plus notre responsabilité. Alors, c'est vraiment de maintenir la doctrine dans ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que Dieu a déterminé toutes choses, a décidé toutes choses sur toutes les personnes, et non seulement sur toutes les personnes, mais sur l'univers. Mais pour ce qui est des personnes, on serait porté à dire, ben, comment je peux changer quoi que ce soit, puisque c'est Dieu qui l'a déterminé, je fais simplement exécuter ce qui est décidé d'avant. Alors, c'est comme si on chercherait, alors il y a plusieurs qui ont essayé de le faire, c'est comme si on chercherait à exclure notre responsabilité parce que Dieu avait déjà tout décidé d'avant. Et la Bible nous enseigne que, à la fois, Dieu est souverain et qu'il a décidé toutes choses sur la vie de tout le monde, mais en même temps, la Bible t'enseigne que tu es responsable. On n'est pas juste des marionnettes qui exécutent la volonté de Dieu d'une manière mécanique. Dieu nous a donné une intelligence, Dieu nous a donné une volonté, Dieu nous a donné une capacité de voir les choses, de sentir, de prendre nos décisions. Et l'un n'exclut pas l'autre. À partir du moment qu'on cherche à l'expliquer, on ne comprend plus. Parce que si on regarde dans Romains 9, que quand Paul il amène l'argumentation de la souveraineté de Dieu, là, ils disent, il amène un argument, puis ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire si c'est Dieu qui l'a décidé? Oui, il voit, il peut le faire. On va voir que c'est vraiment un argument que les êtres humains vont se servir quand ils voient qu'on leur parle de la souveraineté de Dieu. Mais là, ils se disent... Ah oui, c'est à partir de 9, verset 13 ou 14. Hein. Là, il explique tous les versets précédents expliquent que dans le fond, la doctrine de la souveraineté. Et 13, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de la justice en Dieu? Nullement. Un petit peu plus loin. Ah, ben, dans 18, il fait miséricorde à qui il veut, l'endurcit qu'il veut. Or, tu me diras. Ça, c'est le. Or, tu me diras, c'est comme si Paul répond à un objecteur potentiel. Alors, il dit, or, tu me diras, pourquoi Dieu se plaît-il encore, car qui peut résister à ta volonté? On veut-tu? Alors, Paul, il répond, mais plutôt, ô homme, qui tu es, toi qui contestes avec Dieu, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alors on voit que c'est naturel au cœur de l'homme, dès que tu commences à y parler de la souveraineté de Dieu, que toute sa vie a été décrétée dans le conseil de Dieu de toute éternité. Il se voit comme une marionnette. Il se voit comme étant un automate. Alors, pas ça du tout, la Bible nous enseigne les deux principes, ils marchent parallèles, sont enseignés tous les deux dans la Bible. Et quand un théologien se met dans la tête d'essayer d'expliquer ça, ça ne fonctionne plus parce que tu ne peux pas rentrer dans les choses de les sphères divines. Dieu nous dit que c'est de même, ça marche. Mais quand on essaie de l'expliquer, ça pose des graves difficultés intellectuelles, pour le moins qu'on puisse dire. Proverbe 16, verset 1. Mais ce n'est pas la seule difficulté intellectuelle qu'il y a dans la Bible, parce que si on prend la doctrine de la souveraineté, ça pose à peu près le même type de problème, pas de la souveraineté, mais de la Trinité, ça pose à peu près le même type de problème. Si on dit qu'il y a un seul Dieu, on dit qu'il y a trois personnes dans un seul Dieu. Alors tous ceux qui ont essayé d'expliquer la doctrine de la souveraineté, ils cherchent toujours à prendre des exemples. Là. Moi, quand je les vois embarquer dans des exemples comme ça, je trouve ça trop drôle, parce qu'ils cherchent à nous donner des parallèles sur des choses dont ils connaissent rien. Et je trouve ça plutôt... ça aide pas bien souvent. Je trouve que ça aide. OK, Proverbe 16, verset 1. Bon, ça dit, les projets du cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse de la langue appartient à l'Éternel. Ça veut dire que des fois, dans nos têtes, on a bien des projets. Mais les choses qui deviennent, comme en anglais, ils disent « things that come to pass », les choses qui arrivent, les choses qui s'exécutent dans notre vie de tous les jours, c'est ce que Dieu avait déterminé de toute éternité pour notre propre vie. Alors, les projets du cœur dépendent de l'homme, mais la réponse de la langue appartient à l'Éternel. Je vais un petit peu plus loin dans le verset 9. Le cœur de l'homme délibère sur sa conduite, mais l'Éternel dirige ses pas. Le cœur de l'homme délibère, ça veut dire délibérer, ça veut dire il se pose des questions, il délibère, quand on est un groupe, là, puis qu'on arrive à vouloir voter, on délibère. Alors, des fois, dans notre esprit, dans nos projets, on s'amène des objections, on se discute avec nous-mêmes, comme on pourrait dire. C'est ce que ça dit. Le cœur de l'homme délibère sur sa conduite. Ah, ben là, je vais peut-être aller là, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être exécuter telle affaire. Puis la preuve, c'est que 80%, des fois 90%, et des fois même plus, de ce qu'on a décidé qu'on va faire dans une journée, c'est pas ça qui se produit du tout. Qu'est-ce qui se produit? Il se produit ce que Dieu avait décidé de toute éternité. Alors, l'Éternel dirige, je sais pas. Tu as le verset 33. Aussi du même chapitre. Ici, on parle de hasard. Est-ce que le hasard existe? Tu rencontres une personne dans ta vie chrétienne, le Seigneur l'a mis sur ta route. Ah, tu dis, je l'ai rencontré par hasard. Verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais tout ce qui en résulte vient de l'Éternel. En dans l'autre version, c'est on jette les dés. Comme si c'est l'idée de ce qui nous semble être du hasard. Tu sais. Les cartes. Bon, ça nous semble du hasard. Là, l'Éternel dit que on jette les dés ou on jette le sort dans le pan de la robe, sur la table, même comme tout là. Mais ce qui arrive, le résultat du geste, c'est l'Éternel qui a décidé comment ça arriverait. Alors, tout ce qui arrive est le résultat de la décision de l'Éternel. Proverbe 19, verset 21. Il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme. Je pense qu'on est pas, on est tous d'accord avec ça. Hein? On a bien des pensées dans notre tête. Mais le conseil de l'Éternel est immuable. C'est simplement ce que ça dit, c'est que le décret de Dieu, la décision de Dieu sur nos vies, c'est quelque chose qui a été fixé de toute éternité. Alors, ce qui arrive, c'est quelque chose il est déjà utilisé. Immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. 21, ou dans l'autre version a dit, dans la seconde, ça dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors c'est sensiblement un peu. Proverbe 21:1. Alors, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme une eau courante. Il l'incline à tout ce qu'il veut. Alors, on voit, l'Éternel peut prendre le cœur d'un homme. Là, il parle du cœur d'un roi. Alors, par déduction, s'il le fait avec les rois, il le fait encore bien plus avec nous autres, qui sommes des sujets. Alors, il prend le cœur d'un roi. Quand tu mets ta main en dessous de l'eau qui coule d'un évier, tu peux diriger l'eau dans le sens que tu veux. Oui. Alors, le Seigneur fait la même chose avec le cœur d'un roi. La preuve, on pourrait aller voir des versets dans l'Ancien Testament où le Seigneur a fait ça avec le cœur d'un roi. Il a dirigé le cœur d'un roi. Prendre le cœur de l'édit de Cyrus pour retourner le peuple après qu'il avait été à Babylone. Le Seigneur s'est servi d'un roi païen pour que ce roi-là émette un édit, un décret politique pour permettre au peuple d'Israël de retourner à Jérusalem afin de reconstruire la ville et le temple. Et c'était prédit dans Ésaïe, c'était prédit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que l'Éternel ferait ça, et c'était même, son nom était même prédit avant qu'il vienne au monde. Alors, Cyrus, là, dans l'Ancien Testament, on pourrait aller voir les versets, là. L'Éternel avait déjà dit qu'il se servirait d'un homme qui avait donné son nom avant même qu'il soit mort, et qu'il se servirait cet homme-là pour accomplir son dessein. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Dit, rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, il n'y en a point comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore, je dis, mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté. Là, on a vu les versets en général, maintenant on va regarder sur les hommes collectivement. Donc, les hommes, on pourrait dire, plus dans le sens politique que dans le sens individuel. On a vu la semaine dernière, on va aller voir certains versets cette semaine qui nous démontrent que non seulement Dieu élève les dirigeants, c'est lui qui les établit, mais c'est lui aussi qui a quand il a leur temps, et fait, il les enlève. Alors, dans Daniel 2, versets 20 et 21, Daniel qui parle, et Daniel dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force, et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alors, le verset dit que c'est Dieu qui dépose et qui établit les rois. C'est-à-dire que c'est lui qui les fait entrer en fonction, les fait entrer en pouvoir, et c'est lui qui leur enlève le pouvoir. Les hommes, eux, quand ils sont en politique, ils sont incroyants, ils ont bien l'impression que c'est eux qui dirigent leur propre vie, et que ce soit par leur intelligence ou soit par leur erreur, qui arrivent en poste, ou soit qu'ils perdent le pouvoir, ils se disent, bon, il y en a qui m'ont lâché, ou ben non, j'ai fait une gaffe, puis ça finit par... Alors que c'est pas ça du tout. L'Éternel permet qu'une personne rentre en pouvoir, et il dit même qu'il peut prendre le plus pauvre des hommes et en faire un roi, comme il peut prendre le roi puis en faire le rien des riens. Daniel 4, verset 25. Là, ici, c'est le Seigneur. Alors, c'est Nabuchodonosor qui a rêvé à un arbre. Et on lui a donné, Daniel lui donne l'interprétation du rêve qu'il a eu. Et à partir du verset 24. Alors, voici l'interprétation au roi. C'est ici la sentence du souverain. Alors, la sentence du souverain, c'est qui le souverain? C'est Dieu. C'est ici la sentence. Dieu l'a sentencé. La sentence du souverain qui va atteindre le roi, mon Seigneur. Alors, il dit, voici ce que Dieu a décidé à ton égard, mon cher Nabuchodonosor. On te chassera du milieu des hommes. Puis, il faut se replacer dans le contexte. Nabuchodonosor, dans ce temps-là, c'était le roi le plus puissant de la terre. Il y avait, je sais pas combien, 120 nations. En tout cas, il y avait des nations, il dominait. Peut-être la personne qui, au cours de l'histoire, un des personnages, ou qui a dominé sur la plus grande partie de la terre. Alors, on dit, Dieu lui donne sa sentence, on te chassera du milieu des hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbes comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Extrêmement puissant comme verset. Alors, ce qui se passe, le roi, quand j'ai étudié mon cours sur Daniel, je me souviens très bien de ça, dans le volume qu'on étudiait, il nous disait, on dit que il est venu avec des ondes comme un oiseau, il est venu les cheveux longs. Alors, pour un roi de cette... Imagine-toi, à cette époque-là, quand un roi était au summum de son pouvoir, il devait être habillé d'une manière extraordinairement riche. Il avait un pouvoir de vie et de mort sur tous les hommes de son royaume. Et là, l'Éternel dit, je vais faire de toi comme un animal, tu vas aller manger de l'herbe des champs. On pense des fois que c'est une expression. Mais dans le livre, l'auteur qui donnait le commentaire sur Daniel disait qu'ils ont découvert dans certains pays des hommes qui, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, qui s'en vont comme ça, puis ils mangent l'herbe des champs. Peut-être une sorte de maladie. Mais ils viennent comme les hommes, comme un oiseau, puis ils viennent, en tout cas, si on prendrait le texte aussi, là, un petit peu plus loin, je pense qu'il ça dit... OK, verset 33. Au même instant, quand le Dieu exécuté, la parole s'accomplit sur Nébuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes et il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Et l'auteur mentionnait qu'en Angleterre, il a trouvé des cas comme ça, médicalement... prouver ou documenter qu'il existait des personnes qui sont venues comme ça. Alors, l'Éternel a pris le roi le plus puissant de la terre, puis il l'a humilié, puis la raison pour laquelle il l'humiliait, il lui disait, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Puis 7 ans, quand on dit pour 7 ans, c'est probablement 7 ans. Donc pour 7 ans, ce roi-là a subi ce... Alors c'est pour démontrer à quel point l'Éternel a le contrôle et qu'il peut élever un homme comme il peut le... Un petit peu plus loin, on va aller dans Daniel 5, versets 20 et 21. OK, si on peut le lire, même le verset 35 est intéressant, c'est vrai. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés nains. Il fait ce qui lui plaît. Tant de l'armée des cieux, on a vu la semaine passée, ça comprenait quoi? L'armée des cieux, c'est l'ensemble de toute sa création. Tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire, que fais-tu? Verset 5, chapitre 5, c'est-à-dire versets 20 et 21. Mais son esprit s'étant élevé et son esprit s'étant affermi dans l'orgueil, il fut renversé de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son corps fut rendu semblable à celui des bêtes, et son habitation fut avec les ânes sauvages Il fut nourri d'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu souverain domine sur le règne des hommes et qu'il y établit qui il lui plaît. Alors, les gens, aujourd'hui, ont le bon grand, ça vit dans ce temps-là, mais est-ce que l'Éternel change? Si l'Éternel était à l'époque, à cette époque-là, il le fait encore. Alors, les hommes de pouvoir qu'on voit en place aujourd'hui, la Bible nous enseigne que c'est Dieu qui les établit là et que c'est Dieu qui leur enlève le pouvoir quand il lui plaît et comme il lui plaît. C'est important de savoir ça, c'est rassurant. Alors, l'Éternel, le Seigneur, établit les royaumes et leurs dirigeants. Le Seigneur maintenant aussi fixe la durée et la limite de leur territoire. Acte 17, versets 24 et 26. Aussi intéressant de voir ça. Lors de verset 24, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont. Et quand le Seigneur, quand on parle de Seigneur, c'est le souverain, le Seigneur, le dominateur, on pourrait dire, du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang. Alors, tu sais, quand à l'époque des Juifs, à l'époque de Hitler, lorsqu'il cherchait à démontrer d'une manière scientifique que la race aryenne était supérieure à toutes les races du monde et que là, il pouvait débarrasser la race des Noirs, il pouvait débarrasser la race des Juifs, la considérant comme inférieure. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux hommes? Il a fait d'un seul sang toutes les races de la terre. Alors, s'il avait écrit des volumes, qu'il y avait une armée de personnes qui cherchaient à convaincre les Allemands de cette doctrine-là, juste dans une seule phrase, la Bible détruit toute sa pensée, tout son système. Et ce système-là, on sait qu'il a marché en 1945 en Allemagne. Alors, l'Éternel, ici, nous donne une clé. C'est pas vrai que les hommes sont inférieurs l'un à l'autre. Il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre. Et là, c'est là le verset clé. Ayant déterminé la durée précise. Pas la durée approximative, la durée précise. Alors, ça peut être quelque chose comme du 17 janvier 2002 à aller jusqu'à 28 avril 2006. Tu sais, c'est aussi précis que ça, c'est précis. Et les bornes de leurs habitations, on sait que chaque pays a des limites territoriales, a des frontières. Chaque pays a des frontières. Alors, on peut se poser, on peut toujours se dire, ah, ben c'est les hommes, ils ont vu qu'il y avait un fleuve, donc ils ont décidé que ce serait le fleuve. Ils ont vu qu'il y avait une montagne, donc ils ont décidé que c'était la montagne. Oui, jusqu'à un certain point, parce que le Seigneur se sert des hommes pour exercer sa volonté, mais chaque pays a des frontières, chaque pays a des temps de durée. Si on pourra voir, si on étudiait l'histoire, à partir du début, l'histoire humaine connue, qu'il y a eu des races ou des pays qui ont complètement disparu, ou que dont les formes de leur territoire ont varié, ont changé. Si on étudie l'histoire de l'Europe, on voit très bien ça, les noms des pays qui changent, les frontières changent continuellement. Alors, la Bible nous dit que l'Éternel, non seulement a déterminé la durée du règne des hommes collectivement, mais aussi la délimitation de leur territoire, de manière précise. Et même, on pourrait reculer dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur l'avait dit, qu'il avait déterminé les territoires des pays qui entouraient Israël en fonction de son peuple. Alors, c'est comme s'il avait destiné Israël, puis après ça, il a regardé les autres nations, il a dit ça, tout va avoir ça, tout va avoir ça, tout va avoir ça, tout va avoir ça. Plus compliqué. Donc là, on pourrait dire que la division du territoire dans l'Ancien Testament, le Seigneur, on pourrait dire qu'il était même israélo-centrique. Il avait Israël, puis le reste, c'était en deuxième. Maintenant, est-ce que le Seigneur utilise les nations et les chefs des nations dans l'exercice de sa volonté? Deux rois, c'est chapitre 19. Deux rois, chapitre 19. Verset 20 à 35. Alors Isaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as faite au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie. Car c'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se rit de toi, la Vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Et contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté les yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, « Avec la multitude de mes chars, je monterai au sommet des montagnes, aux retraites du Liban. Je couperai ses plus hauts cèdres et ses plus beaux cyprès. J'atteindrai sa dernière cime, la forêt de son jardin. J'ai creusé et j'ai bu les eaux étrangères et j'ai tari de la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ceci dès longtemps et que, dès les temps anciens, j'en ai formé le dessein. Maintenant, je le fais arriver et tu es là pour réduire les villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants, privés de force, sont épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme l'herbe des toits et le blé brûlé avant de se former en tige. Mais je connais ta demeure, ta sortie et ton entrée, et ta fureur contre moi. Parce que tu es en fureur contre moi, et que ton insolence est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines, et mon frein entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Et voici le signe que tu en auras, ô Ézéchias, on mangera cette année ce qui viendra de soi-même au champ, et la seconde année, ce qui croîtra encore sans qu'on sème, mais la troisième année, vous sèmerez et vous moissonnerez des vignes et vous en mangerez le fruit, et ce qui sera échappé demeuré de la saison de Juda poussera ses racines en bas, et il produira ses fruits en haut, car il sortira de Jérusalem quelques restes, et de la montagne de Sion quelques réchappés. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel touchant le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il n'y jettera point de flèches, il ne lui présentera point de bouclier, il n'élèvera point de terrasse contre elle, il s'en retournera par où il est venu, il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Et je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Or, cette même nuit-là, un ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 180 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, une grosse armée, où j'étais dans l'armée. Puis quand on se rassemblait le vendredi matin sur ce qu'on appelait le Parade Square, on ramassait tout un bataillon. C'était à peu près 2000 hommes. Et je dois te voir, quand tu vois 2000 hommes de poussée sur un terrain de parade qui drille, c'est très impressionnant. 2000. Là, on parle de 180 000 hommes qui étaient venus avec le roi d'Assyrie pour attaquer Jérusalem. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Écoute bien, mon petit bonhomme. Tu ne rentreras pas dans cette ville-là. C'est clair. Puis là, il dit, et moi, j'aime bien la phrase qu'il utilise dans le verset 37. Dans le verset 28, il dit, je mettrai ma boucle à tes narines et mon frein entre tes lèvres. C'est vraiment l'image du gros bœuf où tu rentres un anneau dans le nez et tu lui mets un mort dans la bouche. Alors, quand un animal, aussi gros soit-il, tu lui mets ça dans la bouche, puis tu prends ton anneau. Le plus petit enfant qui sait comment le manœuvrer, puis tu lui montrerais, donc il n'y a pas aucune force. Le bœuf, il va suivre. Mais ça ne veut pas dire que l'Éternel, il a juste la force pour 180 000 hommes. Il a de la force pour bien plus que ça. Mais c'est la preuve que le Seigneur utilise les hommes et leur dirigeant dans l'exécution de sa volonté. Et là, on pourrait multiplier des exemples dans l'Ancien Testament, il y en a beaucoup. Alors, c'est le verset 28 qui est remarquable parce qu'il dit qu'il va mettre son bouc à sa narine et son frein sur les lèvres. Je te ferai retourner. Puis non, pas tu retourneras par où tu vas vouloir. Je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Il a pu le faire retourner par ailleurs. Tu l'as fait retourner par le chemin par lequel il est venu. Dans le verset 35, cette même nuit-là, un ange sorti puis frappe 180 000 du camp des Assyriens. Alors, on voit que l'Éternel battre une armée de 180 000 hommes. T'as pensé sur l'autre exemple qu'on avait quand, c'est Élisée. À un moment donné, le roi d'Assyrie l'haïssait parce que chaque fois qu'il entreprenait quelque chose de militaire, il perdait tout le temps. Puis là, il parle avec ses conseillers, puis il dit, il y a sûrement quelqu'un de mon peuple qui est un traître, qui va tout dire au roi qui se passe alentour, qu'est-ce qu'on a décidé? Parce que pas, on parle tout le temps. Et là, il y en a un qui dit, c'est Élisée. Là, il fait rechercher, et là, il trouve la ville où il est, et là, il amène une grosse armée, puis il met l'armée autour de la ville, puis il dit, sortira pas de là, on va le pogner. Alors, Élisée, le lendemain matin, est avec son serviteur, et là, il regarde ça, puis son serviteur est énervé. Hey, on est perdu! On est fait à l'os. Ils vont nous tuer. Ils vont nous pogner. Il demande au Seigneur, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Le Seigneur lui a permis que son serviteur ouvre les yeux et il a vu l'armée de l'Éternel qui entourait l'armée des Assyriens. Et là, il a comme perdu sa peur parce que l'Éternel permettait qu'il voit quelque chose que lui, Élisée, voyait. Alors, lui, il n'avait pas de crainte de ça, pas en tout. Il savait que l'Éternel le protégeait. Mais tu sais, il y en a qui vont dire, ça, c'est des histoires mythiques de la Bible, c'est des contes. Alors, si tu crois ce que Dieu dit, puis Dieu dit que ça s'est passé, moi, je le crois au mot. Alors, je dis que Dieu s'est passé, ça s'est vraiment passé. Et là, on voit la souveraineté de Dieu. Et il ne l'a pas pogné. Je ne sais plus c'est quoi la fin de l'histoire. Ils sont devenus aveugles, c'est ça. L'Éternel a permis qu'ils deviennent aveugles. En tout cas, c'est des histoires bibliques qui viennent nous démontrer que, dans le fond, l'Éternel est capable de faire des super grandes choses. Et dans le fond, si le peuple d'Israël aurait demeuré fidèle à l'Ancien Testament, on a vu que, dans certaines périodes de leur histoire, où ils étaient obéissants, où ils étaient en soumission à la volonté de Dieu, David avec des victoires sur les Philistins, sur les Ammonites, sur tous les peuples qui les environnaient. Il n'y avait aucune difficulté. Il gagnait toutes ses guerres. Parce que l'Éternel était avec lui. Quand l'Éternel est avec toi dans une guerre, peu importe la qualité, la force, le nombre de tes ennemis. Même, je me souviens, dans Deutéronome, il leur dit, si vous êtes fidèles, ils vont fuir devant vous. Un va faire fuir 1000. L'Éternel est capable de faire des choses extrêmement grandes dès qu'on est fidèle, qu'on lui fait confiance. OK, maintenant, l'honneur leur donne l'accroissement ou les fait périr, les nations et les dirigeants. Job 12, verset 21-25. La sagesse est dans les vieillards et le discernement est le fruit des longs jours. Non, c'est en Dieu que se trouve la sagesse et la force, c'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence. Voici, il démolit et on ne rebâtit point. Il enferme quelqu'un et on ne lui ouvre pas. Voici, il retient les eaux et elles tarissent. Il les lâche et elles bouleversent la terre. En lui réside la puissance et la sagesse. De lui dépendent celui qui s'égare et celui qui égare. Il fait marcher pieds nus les conseillers, il frappe de folie. Il fait marcher pieds nus les conseillers, il frappe de folie les juges, dans le fond. Il relâche l'autorité des rois et il serre la corde sur leurs reins. Il fait marcher pieds nus les prêtres, il renverse les puissants. Il est dit jusqu'à 25. Il ôte la parole aux plus assurés et il prive de sens des vieillards. Il verse le mépris sur les nobles et il délie la ceinture des forts. Il met en évidence les profondeurs cachées dans les ténèbres et il amène à la lumière l'ombre de la mort. Alors là, il me dit les forces de l'ombre, l'ombre de la mort. Il agit, il agrandit les nations et les perd. Il étend les nations et les conduit en captivité. Il ôte le sens aux chefs des peuples de la terre. Il les fait errer dans un désert sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres sans aucune clarté. Il les fait errer comme un homme ivre. Alors on voit que l'Éternel exerce l'autorité. On voit quand il dit, il relâche l'autorité des rois. Il serre la corde sur leurs reins. Il fait marcher pieds nus les traîtres, renverse les puissants. Là, on voit vraiment que c'est l'Éternel qui a le contrôle sur les activités des puissants. Et il peut les faire chuter, il peut les relever, il peut faire ce qu'il veut avec eux. Plus particulièrement, peut-être le verset 23. Il agrandit les nations. On prend juste l'exemple de l'Angleterre, qui est une petite île. Puis regarde le pouvoir qu'ils ont eu au 18e siècle, 19e siècle, c'est-à-dire se sont étendus à travers la terre entière, dominaient les Indes, dominaient toute une série de l'Afrique, etc. Canada. Une petite nation, l'Éternel a permis qu'ils deviennent puissants, comme il peut permettre qu'ils perdent le pouvoir qu'ils avaient eu. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, l'Angleterre, si on compare la force qu'elle a déjà eue, la puissance, l'influence qu'elle a déjà eue, comparativement à ce qu'elle a aujourd'hui, elle est devenue une nation de seconde force comparativement aux États-Unis ou à l'URSS. Il n'est plus l'URSS maintenant. Qui est
non,
c'est même chose. OK, le Seigneur les observe et les juge maintenant. Est-ce que quand ils exercent leur pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, ou si, à l'occasion, c'est sûr que l'Éternel peut les faire, mais aussi, des fois, il les observe et il les juge. Psaume 116, verset 7. Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations. Ça veut dire que l'Éternel, par tout ce qui se passe dans les conseils de ministres, là, il sait tout ce qui se passe là. Il les observe. Pour que les rebelles ne s'élèvent pas. Alors, si l'Éternel permettrait qu'il y ait plus méchant de tous les pays qui viennent à la tête du. Ça serait terrible. Alors, même l'Éternel contrôle ces choses-là, la méchanceté, la quantité de méchants qui vont dominer, puis même leur qualité, les rebelles. Après ça, tu as le psaume 75, verset 8. Car c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et élève l'autre. Et on voit ça souvent en politique, quelqu'un qui est moindrement observateur de la politique, qui observe ça d'une manière constante, régulière, il va voir que, oh, qu'il y a des hommes qui montent, oh, qu'il y a des hommes qui descendent, des hommes qui sortent du pouvoir pour toutes sortes de raisons. Mais l'Éternel dit que c'est des jugements. L'Éternel les juge. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui existe comme autorité, les petits pouvoirs municipaux, les petits conseils municipaux, les petits conseils du village, tout ce qui existe comme autorité sur l'ensemble de la Terre, il y en a à beaucoup de niveaux, les universités, à tous les niveaux, il y a de l'autorité. Alors, est-ce que c'est les choses qui sont laissées à la discrétion des mains des hommes, ou si les autorités sont instituées par Dieu? Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. Et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. Alors, ça peut être une leçon pour nous autres chrétiens. Peu importe la nature du pouvoir qui existe, que ce soit un policier, parce que des fois, on est porté à mépriser les autorités, c'est naturel. Le cœur de l'homme, dans sa nature profonde, c'est un rebelle. On est tous des rebelles, dans notre nature profonde. Alors, on n'aime pas être bossé, on n'aime pas être dirigé, puis on n'aime pas que quelqu'un vienne intervenir dans nos vies. Bien souvent, écoute parler les païens, quand ils sont arrêtés par la police, ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce qu'autant quand on reçoit notre compte de taxe, c'est sûr que ça ne veut pas dire soumis aux autorités, ça ne veut pas dire que si l'autorité de Dieu, l'autorité des hommes, c'est-à-dire, te demande des choses qui vont à l'encontre des Écritures. Par exemple, on donnerait un exemple. Supposons que, jour au lendemain, la ville de Québec décréterait qu'on n'a plus le droit de s'assembler comme chrétien pour louer le Seigneur, pour étudier sa parole et pour chanter ses louanges. En Chine, il y a des places que c'est un décret politique que tu ne peux pas faire ces choses-là. Alors là, ici, la Bible nous dit qu'on doit être soumis aux puissances supérieures, qu'on doit obéir aux autorités civiles. Mais la Bible nous dit que si ça vient à l'encontre, ce qu'il nous dit, si ça vient à l'encontre de ce que Dieu nous dit, là, l'autorité qu'on doit faire passer en premier, il faut qu'il y ait une priorité. Dieu en premier, les hommes. Tant que les hommes nous demandent des choses qui ne vont pas à l'encontre de la volonté révélée de Dieu, on se doit d'obéir aux autorités à quelque niveau que ce soit. Et pour le chrétien, ça implique pas mal de choses, ces choses-là. Parce que des fois, donc, tu es un chrétien, tu es dans un milieu de travail mené à la grève. La grève, c'est une défiance aux autorités. Moi, je me souviens, il y a une époque où j'étais syndicaliste, et tu t'es revenu me dire ça, là, puis tu m'as arrêté de lever trois pieds sur ma chaise. Je croyais que c'était les hommes qui déterminaient les choses et que je voyais le mouvement syndical comme ayant accompli beaucoup de choses pour faire avancer le respect des travailleurs. Je ne nie pas ça. Mais quand tu es chrétien, tu ne dois plus devenir une marionnette dans les mains de ceux qui dirigent. Parce que bien souvent, en tout cas, moi personnellement, aujourd'hui, je ne participerai plus à une guerre. Mais c'est sûr que comme chrétien, ça peut t'amener des fois à des... tu peux te faire haïr, tu peux te faire rejeter, tu peux te faire à cause de tes positions, à cause de tes convictions. Et pas rien que ça, comme les gens qui vont, par exemple, dans les rues, comme à Québec, cet été, quand tu as eu le sommet, tu as vu ça en ville, là, ça brassait les bombes lacrymogènes, il y en a qui se sont fait blesser, il y a des policiers qui ont été blessés, les propriétés qui ont été brisées, etc. Il y a eu énormément de choses. Alors, je verrais, ce n'est pas parce que j'approuve la mondialisation, ce n'est pas parce que j'approuve que je ne suis pas au courant de toutes ces choses-là qui se passent sur la Terre que si je ne vois pas que j'approuve ça. Là. Et je crois que le moyen le plus puissant pour lutter contre ça, plutôt que d'aller dans la rue, c'est de me mettre à genoux et prier mon Seigneur. Parce que lui, il a le pouvoir sur toutes les choses qui se passent sur la Terre. Il peut bien plus intervenir à ce niveau-là que d'en aller dans le milieu de la ville de Québec et de me promener avec une pancarte. Je ne changerai absolument rien. Là. Tout ce que je risque de faire, et de me faire mettre en prison. Alors, c'est des petites choses, c'est quand on est chrétien, quand on sait que c'est le Seigneur qui mène, il y a des moyens qu'il y a, des fois, de lutter contre certains mouvements qu'on considère injustes. C'est sûr que la mondialisation, si on regarde ça dans son ensemble, l'ensemble des grosses multinationales vont transférer leurs installations qui sont dans des pays riches. Ils vont les transférer. Là, il n'y aura plus aucun règlement national qui va les empêcher, parce que les nations vont s'entendre entre eux autres. Et c'est d'ailleurs commencé, j'écoutais un commentaire là-dessus, en France, en Angleterre, même ici au Québec, c'est commencé, même ici, il y a une shop qui vient de fermer, là, juste ici à Lillette, là. Montmagny. Montmagny, où ils font des poêles. Bon, la compagnie, à un moment donné, ils font de la... qui appelle... je ne sais plus du nom qu'ils appellent ça, là, la rationalisation. Et là, ils décident que faire produire des poêles aux Indes ou faire produire des poêles en Afrique ou en Amérique du Sud, ça coûterait pas mal moins cher. Alors, ils ferment les choses. Et là, ils vont se faire ça à grandeur du globe. Nos économies actuellement, qui sont riches en Amérique du Nord, là, les économies nationales sont en train de toutes laisser leur souveraineté aux mains d'une organisation internationale. Et c'est là ce qui... Toutes ces choses-là vont se passer, ça va créer énormément de désordre social, ça va créer énormément de problèmes sociaux, on le sait, mais ce n'est pas en allant dans la rue, en tirant des bombes aux policiers, en essayant de pogner les dirigeants politiques en lui tirant des roches ou en leur criant des bêtises que tu vas changer quoi que ce soit. Ces choses-là, c'est ces pensées de haut, ils ont tous les pouvoirs policiers, militaires à leur service. Alors, de penser comme individu que tu es capable d'arrêter ça, il y a un peu une présomption un peu folle là-dedans. Mais moi, je me dis, la personne, le chrétien, qui va prier à son Dieu à genoux, il est plus puissant que tout ça. Mm-hmm. Il dit, Seigneur, aie pitié de tel pays, parce que ça, je crois énormément plus à la force de la prière d'un chrétien pour intervenir dans ces choses-là qu'elle avait une promis dans la rue de Québec avec une pancarte. OK. Maintenant, on a vu que c'était sur collectivement, il élève les hommes, il élève les dirigeants, il dirige les pays, il détermine la durée de leur existence, leurs frontières, etc. Il peut servir les dirigeants pour accomplir sa volonté. On a vu une couple d'exemples. Maintenant, on va regarder l'existence individuelle, nos existences à nous. Narendra, Marcel, Richard, Lucie et autres Marcel. Est-ce que le Seigneur dirige nos vies? Est-ce que le Seigneur dirige nos vies? Autant qu'il dirige les nations? La réponse est oui. Le Seigneur détermine le nombre des jours de l'homme. Alors, Narendra, le Seigneur a déterminé le jour où tu étais pour venir au monde. Il a déterminé le jour où tu étais pour mourir, puis les circonstances dans lesquelles tu étais pour mourir. Il a fait la même chose pour lui, même chose pour lui, même chose pour elle, même chose pour moi. Et il a fait ça pour tous les hommes de tous les temps. Et par c'est psaume 139, verset 16. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe. Et sur ton livre, parle du livre de Dieu, étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux n'existait. Alors, de toute éternité, Dieu a dit, Narendra, il va venir au monde telle date, dans tel pays, dans telle ville et dans telle famille. Et le nombre de tes jours est déterminé dans le conseil de Dieu. C'est spécial de savoir ça, hein? Les premières fois que tu prends conscience de ça, c'est un peu troublant. Alors, le Seigneur maintenant aussi règne sur les succès et les échecs des hommes. Alors, encore là, autant dans les collectivités, les dirigeants politiques croient que c'est eux qui mènent tout, dans notre propre vie, on pense aussi que c'est nous qui mènent tout. Nos succès, nos échecs. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Psaume 75, verset 8. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, ça n'enlève pas la responsabilité à l'homme dans le travail qu'il fait pour accomplir un succès, ou dans les erreurs qu'il fait pour avoir un échec. Mais ultimement, qui est-ce qui mène tout? 75, verset 8. Car c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et élève l'autre. Le Seigneur enrichit et le Seigneur appauvrit. 1 Samuel 2, verset 6 et 7. C'est spécial, je sais, hein? Seigneur appauvrit, Seigneur enrichit. L'homme aussi portait s'attribuer, hein? S'il est riche, c'est de sa faute. S'il est pauvre, c'est de sa faute. Donc l'Éternel dirige ta vie économique aussi, ta vie de carrière et ta vie économique. 1 Samuel 2, verset 6 et 7. L'Éternel fait mourir et l'Éternel fait vivre. Il fait descendre au sépulcre et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. Et on a vu ça des fois, on pourrait voir ça dans une sorte de... Je me souviens d'avoir lu mener un jeune homme. Aux États-Unis, il y avait dans la vingtaine. Volé en informatique, un mésadapté social. À un moment donné, il est devenu un mésadapté social, il est devenu, on pourrait dire en bon québécois, un bum, un train, une personne qui n'a pas d'utilité sociale, qui avait décidé de décrocher du système. À un moment donné, il continue à faire de l'informatique, il décide de faire un certain logiciel. Il fait le logiciel un succès phénoménal. Il part de la rue, il devient millionnaire. Le Seigneur nous dit qu'il peut nous abaisser, qu'il peut nous élever. Puis l'inverse est vrai. Des fois, tu vois des personnes qui sont dans le top, des dirigeants de compagnie, des présidents, jour au lendemain, c'est pas dit de quoi dans la compagnie, une raison quelconque, une fermeture, ou quoi que ce soit. N'importe quoi. Pouf, le gars se ramasse dans la rue. Puis ça s'est vu, des présidents de compagnie se ramasser dans la rue, devenir ou des professionnels. Les médecins, son médecin ou son professionnel, puis à un moment donné, du jour au lendemain, c'est pas dit de quoi dans leur vie, ils sont pas capables de le prendre, ils font une dépression. Alors, dans la vie de l'homme, le Seigneur peut te prendre, peut t'élever, puis peut te prendre, puis peut t'abaisser, comme il veut. Et il y a toujours des raisons. Quand il le fait, il ne le fait pas juste pour le plaisir de s'élever, ou pour le plaisir. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un passage qui dit qu'il peut élever le plus vain des hommes. Alors, il peut prendre l'homme le plus vain, à nos propres yeux, il peut en faire un homme d'une qualité. Prends juste l'histoire de David. David, il était un assembleur de moutons, un berger, personne qui gardait le troupeau de moutons en Israël. C'était pas bien un poste bien en vue, cela. Là. Puis le Seigneur, il a dit, c'est lui qui va devenir le roi d'Israël. Et il est devenu le roi d'Israël. Et non seulement le roi d'Israël, mais un guerrier exceptionnel, un poète, un musicien. Il est devenu là le prix d'en bas, puis même je pense dans un des livres de Samuel, il dit « Je t'ai donné ci, je t'ai pris d'un plat, je t'ai monté à l'autre. » C'est lui, c'est « J'ai ». Il ne dit pas « Tu as monté, tu es devenu le roi d'Israël. »« Je t'ai pris du parc, je t'ai monté comme roi d'Israël. » C'est spécial aussi. 1 Samuel 26, verset 12. Voir une chose ici, que l'Éternel contrôle même le sommeil des hommes. Il peut enlever le sommeil à un homme, il peut donner le sommeil à un homme. Et il y a plusieurs exemples bibliques qu'on prend de ça. Ici, on voit, David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Vu qu'il était là, il était arrivé, il se reposait, il était à la recherche, il cherchait David, il voulait le tuer. Puis à un moment donné, David, durant la nuit, est avec un autre de ses généraux. Il voit qu'il était là. Il décide d'aller chercher la cruche d'eau qu'il avait à côté de lui, la lance qu'il avait à côté de lui. C'était fortement risqué, comme on peut dire. Et après ça, il a dit qu'il était au chevet de Saül, il s'en allait. Il n'y eut personne qui les vit, ni qui les aperçut, ni qui s'éveilla. Car tous dormaient. Parce que l'Éternel avait fait tomber sur eux un profond sommeil. L'Éternel a décidé de permettre à David de faire ce geste-là. Et c'est parce qu'il a permis que tout le monde dorme profondément, que lui a pu faire des gestes. Il aurait pu avoir quelqu'un qui dormait pas ou quelqu'un qui se serait réveillé au moindre bruit. Esther 6:1. Ah oui, qui a permis que le roi ne dorme pas. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, il ne dorme pas durant la nuit, à cause du fait qu'il n'a pas dormi durant la nuit, il a nommé. Ça s'enchaîne, c'est beau, ça aussi. C'est ça. Cette nuit-là, le roi ne pouvait dormir. Et il commanda d'apporter le livre des mémoires, la chronique, et on les lut devant le roi. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait une personne qui, à un moment donné, il y avait un eunuque qui l'avait attaqué. Il avait voulu le tuer. Puis lui, il avait Mardoché, il l'avait déclaré au roi avant que ça arrive. Le roi avait fait son enquête, il avait découvert que c'était vrai. Il avait fait tuer l'eunuque. Mais tu as marqué dans les annales que le roi ne l'avait jamais reconnu, il n'avait jamais donné de récompense. Cette nuit-là, l'Éternel permet que le roi ne dorme pas. Et pour passer son temps, il demande à son serviteur, « Amène-moi les chroniques. » Puis il lui apporte le livre des mémoires, les chroniques qu'ils ont lues devant le roi. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Et on y trouva écrit que Mardoché avait donné avis au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, d'entre les gardes du seuil qui allaient chercher à mettre la main sur le roi Assyrus. Et là, le roi dit, « Quel honneur et quelle magnificence a-t-on fait à Mardoché pour cela? » Et les gens du roi qui le servaient répondirent, « On ne lui en a point fait. » Le roi lui dit, « Qui est dans la cour? » Et là, on voit toute l'histoire de Haman qui cherchait à détruire le peuple juif. L'Éternel permet que le roi d'Orpa qui découvre ça et que là, qui se sert de Aman qui voulait passer par-dessus Mardoché. Et là, bon, Aman, il dit, il faut vraiment lire ce que je viens de dire, très super de belle. Or, Aman était venu dans la cour extérieure de la maison. Aman était l'ennemi du peuple Israël pour demander au roi qu'il fit pendre Mardoché au gibet. Mardoché, c'est un juif, le père d'Esther, mais le père adoptif d'Esther. Mardoché au gibet qu'il lui avait fait préparer. Il avait fait préparer un gibet pour qu'il soit pendu dessus. Puis là, il s'en venait demander, il était dans la cour intérieure, puis il venait demander au roi la permission de prendre Mardoché et de le mettre sur le. Et les gens du roi lui répondirent, voilà, c'est Aman qui est dans la cour, et le roi lui dit qu'il entre. Et là, lui, il ne savait pas là, qu'il était pour se passer là. Et Aman entra donc, et le roi lui dit, que faudra-t-il faire à un homme que le roi voudrait honorer? Or, Aman dit dans son cœur, à qui le roi voudrait-il faire plus d'honneur qu'à moi? Alors, et Aman répondit au roi, quant à l'homme que le roi veut honorer, qu'on lui apporte le vêtement royal dont le roi se revêt, et le cheval sur lequel le roi monte, et qu'on lui mette la couronne royale sur sa tête, qu'on donne ensuite ce vêtement et ce cheval à quelqu'un des chefs du roi, des grands seigneurs qui sont auprès du roi, qu'on revête l'homme que le roi veut honorer, qu'on le fasse aller à cheval par les rues de la ville, et qu'on crie devant l'homme, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alors le roi dit à Aman, hâte-toi, prends le vêtement, le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi à Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi, et n'omets rien de ce qui a été dit. Aman prit donc le vêtement et le cheval, et le revêtit Mardoché, le fit aller à cheval par les rues de la ville, et il criait devant lui, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le Seigneur a un sens d'humour bien particulier. J'aime bien gros le sens d'humour du Seigneur. Mardoché retourna à la porte du roi, mais Aman se retira promptement dans sa maison, tout affligé, et à la tête couverte. Il est sorti du palais, il avait honte, il était gêné, il s'en allait là pour perdre un juif, puis il s'en va là, puis en fin de compte, l'Éternel permet qu'à cause du manque de sommeil du roi, il découvre une chose, puis quand c'est comparé, tu vois la chaîne d'événements qui fait, et c'est tout sous contrôle parfait de l'Éternel. Maintenant, la maladie et la santé, on s'est apporté à penser aussi, je ne dis pas qu'on n'a pas de responsabilité dans le maintien de notre santé, oui, on a notre responsabilité, mais aussi Dieu peut envoyer des maladies, Dieu peut aussi guérir des maladies. Deutéronome 28, verset 21-22. Là, c'est dans le cadre des bénédictions et des malédictions que Moïse, que l'Éternel veut que son peuple sache s'ils désobéissent ou s'ils obéissent. Alors, dans le verset 21 et 22, l'Éternel fera que la mortalité s'attachera à toi jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de dessus la terre où tu vas rentrer pour la posséder. L'Éternel, ici, d'où vient l'action, la source, regarde bien, l'Éternel te rappellera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de l'épée, de sécheresse et de miel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Alors l'Éternel est capable d'envoyer des maladies, non seulement aux hommes, mais aux animaux, dans le but soit de récompenser ses serviteurs, ou dans le but soit de punir ses ennemis. Tu as aussi le verset 27, 28 et 35 du même chapitre. 27, et l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de gratelles dont tu ne pourras guérir. Verset 28, l'Éternel te frappera de frénésie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Verset 35, l'Éternel te frappera sur les genoux et sur les jambes d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il t'en frappera depuis la tempe, de la plante de ton pied, jusqu'au sommet de ta tête. Alors, l'Éternel a le contrôle sur les maladies des hommes et il peut leur envoyer à volonté. Après ça, tu as 2 Rois 20, versets 1 à 5. On voit l'exemple ici d'Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint vers lui et lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, mets hors dans ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Alors Ézéchias tourna son visage contre la muraille et pria l'Éternel. Et il dit, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. » Et Ézéchias répandit beaucoup de larmes. Or, Isaïe n'était point encore sorti jusqu'au milieu de la ville que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dis à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de l'Éternel. Alors, il y avait une maladie mortelle et le Seigneur dit dans 3 jours, tu vas te retourner à la maison de l'Éternel. Maintenant, une autre chose qui est remarquable dans la Bible aussi, c'est de remarquer ce qu'on pourrait appeler la loi de la rétribution. Quand un homme agit par une certaine forme de péché, l'Éternel va toujours, en général, le punir par là où il a péché. Alors, si un homme pêche par orgueil, l'Éternel va permettre qu'il soit humilié, etc. Alors, le principe de cette loi de rétribution-là, je vous l'ai dit, là, quand vous lirez votre Bible d'un couvert à l'autre, portez attention à ces faits-là. Et vous allez la découvrir à beaucoup, 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 beaucoup d'endroits. Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins. Et cela, pour... Quand on dit sonder le cœur et éprouver les reins, c'est vraiment là, un examen attentif et complet de tout ce que tu fais, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu dis. Et il t'examine. Puis, la raison, et cela, pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Et on pourra voir une multitude d'exemples bibliques où le Seigneur, par exemple, il y avait un roi qui avait l'habitude de couper les pouces et les gros orteils des personnes, des rois qui combattaient, puis quand le roi perdait, il lui recoupait les pouces des mains et des pieds. Quand tu n'as plus de pouces des mains, ta capacité de préhension est très, très, très... ouais. Et aussi, pour la même chose pour les pieds, c'est quand tu n'as plus de gros orteils, tu as beaucoup de difficultés avec ton équilibre. Alors, il faisait ça, c'était pour dans le but de les humilier, et il disait qu'il faisait manger sous sa table. Mais à un moment donné, l'Éternel a permis que lui se fasse pogner, et devinez qu'est-ce qui lui est arrivé. Les pieds, les pouces, les pouces des mains, les gros orteils. Alors, il dit, ce que j'ai fait, on me l'a fait. Et ça, cette loi-là, là, elle est vraiment à la Bible d'un couvert à l'autre. Et quand vous lirez, vous remarquerez, quand vous lirez votre Bible, vous allez voir, à un moment donné, rencontrer le principe. Ah, la loi de la rétribution. Ah, la loi de la rétribution. Ah, la loi de la rétribution. Et l'Éternel nous dit qu'il nous juge en fonction de nos œuvres. Il examine toujours ce qu'on fait. Si tu poses un geste d'orgueil, il peut permettre que, il va permettre que, il va t'humilier. Et, la même chose pour les autres péchés. Il va servir du péché que tu commets pour t'humilier ou pour te corriger, mais il va se servir de la même mesure dont il s'est servi. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, il l'a dit aussi. Et on va te juger de la même mesure dont tu te juges, dont tu sers pour juger les autres. OK, on va aller dans 1 Chronique 29, verset 11. Un beau verset qui va nous permettre de terminer en beauté. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la splendeur, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, est le règne et tu t'élèves en souverain au-dessus de tout. Et on va terminer par Romains 11, verset 33, 36. aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Que ses jugements, ou ici on pourrait même dire que ses décrets, quand on voit dans les grecs, on pourrait dire ses décrets sont, ou ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. Alors quand on parle de jugement, quand on parle de décret, quand on parle des choses que l'Éternel a décidées, on donne deux adjectifs pour qualifier ces choses-là. L'impénétrabilité puis l'incompréhensibilité. Puis même si tu vas dans le livre de Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, le Seigneur il nous dit qu'il place les choses dans notre vie comme en face à face. À un moment donné, tu peux vivre une chose, là, d'une richesse, puis à un moment donné, il permet que dans ta vie, il va t'arriver d'autres choses. Il met les événements, ils sont déjà comme tout préparés d'avance. Et à un moment donné, tu vois ça, des fois, les dentifies qu'on a dans notre vie. On va avoir un gros succès, un peu de manière. Et l'ensemble de tout ça, pour les enfants de Dieu, on l'a vu la semaine passée, Dieu permet que ces choses arrivent, mais il y a toute une raison. Et la raison, c'est tout pour ton bien spirituel. Mais quand ça nous arrive sur le coup, on ne veut pas nous retrouver nécessairement comme ça. Verset 34, « Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et en sera payé de retour, car toutes choses sont de lui, la source, et par lui le moyen, et pour lui la fin. À lui soit la gloire dans tous les siècles des siècles. »
Amen. Amen.